5 FM.
Vous avez vu l'heure ? À vos montres à gousset, il est évidemment 20h. Évidemment, montre à gousset ou portable, parce qu'on sait bien que vous êtes des aficionados des nouvelles technologies. On vous souhaite le bonjour, c'est Radio G, Stéphane Corbin, pour Quasar on the Air, Radio G 101.5 sur presque tout le Maine-et-Loire. Comment allez-vous bien ? On l'espère en pleine forme et prêt à faire encore pendant une heure plein de découvertes. On va parler de choses très sérieuses ce soir. Dans cette émission de Quasar on the Air, l'émission de Quasar, le centre lesbien, gay, bi, trans, intersexe plus, d'Angers et du Maine-et-Loire. Alors, qu'avons-nous au menu ? Eh bien, nous allons parler de cette fameuse variole du singe, avec Éric Billot, qui est le président du Corévi. Et puis, nous allons parler d'un film qui est projeté mardi prochain au 400 coups et qui s'appelle « Un visa pour la liberté, Mister Gay Syria ». Et puis, nous parlerons d'un temps qui aura lieu jeudi 9 prochain, à l'entre-deux. Il s'agira d'un temps pour découvrir toute la terminologie, toute la réalité des personnes transgenres, à genre et non-binaire. C'est Quasar on the Air et vous êtes les bienvenus. C'est traditionnel, pas de surprise, vous êtes habitués, nous ouvrons la page agenda de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à noter pour les activités de Quasar à venir ? D'abord, ce soir, eh bien, sachez que les parents se réunissent, c'est-à-dire les parents dans le cadre de Transparents, le groupe de parole pour les membres des familles, pour les proches des personnes transgenres, à genre et non-binaire, que ce soit des personnes transgenres, à genre et non-binaire, mineurs ou majeurs. Et c'est une fois par mois, et c'était donc aujourd'hui, et c'est actuellement de 19h à 21h. Ils s'arrêteront avec nous. Le samedi 4, le 17, et puis le 11, pardon, le 18 et le 25 juin, c'est la permanence au local de Quasar, de 17h à 19h, 25 rue de Jérusalem. Un conseil avec les travaux du tram, évitez absolument le boulevard des Deux-Croix et passez par l'avenue Pasteur. Le mardi 7, on en parlait, au 400 coups, Mister Gay Syria, un visa pour la liberté, avec le pôle droit des étrangers de Quasar, qui vous proposera un débat à l'issue du visionnage de ce documentaire fort émouvant et intéressant. Jeudi 9, je vous le disais. Alors, plein de choses le jeudi 9. Plein de choses. D'abord, une intervention en milieu scolaire en journée pour le pôle éducation-formation de Quasar. À 19h, il y aura un goûter pique-nique de la Team Trans du côté du Héron Carré à Angers. Et puis, à 19h30, ce sera le fameux temps découverte de la transidentité à l'entre-deux. Retenez bien, 19h30. Et puis vendredi 10 juin à 19h30, c'est la réunion de remerciement des bénévoles de la Pride. Et puis il y a plein d'autres choses. Nous en parlons vraiment dans quelques instants. Premier invité et première venue sur l'antenne de Radio G, il s'agit d'Éric Billot. Bonsoir Éric.
Bonsoir Stéphane.
Alors, on a décidé ensemble d'interroger le Corévi parce que dans l'actualité de la dernière plénière, il y avait tout un bilan concernant effectivement l'activité du Corévi sur les maladies infectieuses et notamment le VIH avec les données issues des chiffres de 2021. Et puis à un moment dans la conversation, inévitablement est arrivé un nom, la variole du singe, et donc il nous semblait, avec toutes les alertes et ce que l'actualité a dégagé, qu'il était intéressant de communiquer. Alors, première question au médecin et à l'infectiologue que tu es, la variole du singe, on a à faire quoi très exactement en termes d'épidémie ou de début de quelque chose ?
C'est une vaste question. Alors en fait, La variole du singe ou monkeypox, c'est un orthopox virus qui ressemble à la variole.
Oui.
Et qui touche principalement le singe, c'est pour ça qu'on l'appelait le monkeypox, et dont le réservoir est en fait des petits rongeurs qui vivent en Afrique habituellement. Et donc cette variole du singe était endémique, c'est-à-dire que c'était en permanence, il y avait des cas de temps en temps en Afrique, dans le bassin du Congo et au Nigeria. Et puis, il y a eu en 2007, en 2018, des petites épidémies de quelques cas qui sont survenues soit aux États-Unis, soit en Angleterre, à l'occasion de gens qui revenaient de ces pays-là, ou même aux États-Unis, c'était à l'occasion de transfert de certains rongeurs dans une animalerie, enfin bon, voilà. Et les choses se sont arrêtées assez rapidement. Et puis là, on assiste à un truc un petit peu bizarre, c'est-à-dire que ce virus a commencé à s'installer, je crois, en Angleterre. Et puis, assez rapidement, la plupart des pays d'Europe sont touchés. Et jusqu'à ce que aujourd'hui j'ai appris que on avait 71 cas en France. Voilà, qu'il y en a eu un petit 80 en Espagne, dans les 60 en Angleterre. Enfin voilà, et il y en a à peu près dans un ou deux par pays. Enfin voilà, c'est quand même c'est très disséminé. Et au tout début, on a pensé que il y avait un lien avec la sexualité parce que ça touchait essentiellement des hommes qui ont des rapports avec les hommes.
Ce qu'on appelle les HSH dans notre langage, c'est-à-dire hommes, voilà, ayant des relations sexuelles avec les hommes qui ne se définissent pas forcément comme gays ou homosexuels. Voilà.
Voilà. Bon, cela dit, il y a beaucoup qui sont gays là-dedans.
Oui, bien sûr, on est d'accord.
Mais il y a même eu une petite épidémie aux Canaries avec une fête, une sorte de fête privée gay où il y a eu plusieurs cas qui ont été confirmés au cours de ces... Voilà. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une maladie sexuellement transmissible ou est-ce que on est face à la diffusion d'une maladie parce que c'est le printemps, parce que on a des contacts et que le milieu gay a été particulièrement touché. Bon. A priori, c'est pas une maladie transmissible sexuellement, mais c'est une maladie qui nécessite pour se transmettre des contacts intimes. C'est-à-dire qu'il faut être assez près de la personne qui est infectée, parce que ça peut être transmis par les gouttelettes de salive, mais à une distance très proche. C'est pas comme le Covid où il suffit d'être à 1,50 m pour l'attraper. Là, il faut vraiment être proche. Ou alors en contact avec les lésions cutanées qu'occasionne ce virus. Et à ce moment-là, il va y avoir par contact une transmission du virus de peau à peau ou de muqueuse à muqueuse. Donc on comprend que si effectivement les premiers cas sont survenus chez des HSH qui éventuellement avaient des rapports dans des fêtes avec plusieurs amis, on peut comprendre que ça se soit disséminé assez rapidement.
Alors on peut le dire autrement, on peut dire autrement de multiples partenaires, soyons clairs sur les termes,
oui,
c'est ça. Voilà, c'est ça dont on parle, d'accord.
Voilà, dans des fêtes. Bon. Mais cela dit, ce qui est étonnant, c'est quand même ce caractère assez spontané, enfin simultané dans plusieurs pays.
Voilà.
Normalement, on pourrait imaginer que ça survienne dans un coin puis que ça s'éteigne. Alors, est-ce que c'est parce que ces gens-là ont voyagé juste après? Est-ce que pour l'instant, je crois qu'on n'a pas l'information.
Oui, on n'a pas le retour.
Ce qu'on sait par contre, c'est que là, on commence à voir des cas chez des personnes non HSH, Donc, il est probable que ça soit véritablement simplement le contact intime et proche qui soit responsable, et que, en fait, ça ait touché les gays simplement parce qu'ils étaient... à l'initiative de, ou à l'initiation de cette épidémie. Maintenant, on ne sait pas si on retrouvera peut-être un jour le cas index, mais la personne qui a ramené cette maladie d'Afrique. Mais voilà. Alors, on en est là. C'est pour ça qu'en fait, on n'est pas à l'aise pour dire c'est une maladie sexuellement transmissible, donc le Covid va s'en occuper, on va communiquer. En plus, on ne sait pas trop s'il faut vraiment communiquer à la communauté HSH, parce que si ça se trouve, c'est sporadique, c'est anecdotique, et ça va s'éteindre tout seul. Donc, il n'y a peut-être pas de raison de s'alarmer. En plus, ce n'est pas une maladie grave. La mortalité en Afrique est de l'ordre de 3% avec cette souche-là. Et c'est surtout les personnes immunodéprimées ou les enfants de moins de 8 ans qui sont à risque de formes graves. Donc voilà, ça, c'est une sorte de varicelle, c'est pas très méchant, mais c'est vrai que c'est énervant de se dire il y a une maladie qui circule et qu'on peut attraper assez facilement. Alors ce qu'il y a, c'est que en fait, elle s'attrape cette maladie qu'à partir de personnes symptomatiques, c'est-à-dire que c'est pas comme le Covid où on peut porter le virus sans avoir de symptômes. Là, ce sont les personnes qui ont des lésions cutanées, des petites pustules, des petites papules, des petites vésicules, qui ces vésicules vont porter du virus, donc vont transmettre, ou par les gouttes de salive,
les muqueuses.
Mais en fait, voilà, c'est repérable. Donc, on peut très bien imaginer que si on a un doute, si la personne avec qui on a l'intention d'avoir des relations intimes a des symptômes, lui dire écoute, on va peut-être sursoir pour le moment, c'est on va ça. Attendre un petit peu. Et c'est la meilleure façon d'éviter de
propager.
De l'attraper.
Exactement.
Alors, après, il faut voir aussi que cette maladie qui n'est pas grave, mais qui est gênante parce que pendant 21 jours, en général c'est plutôt 21 jours, les lésions peuvent suinter et transmettre le virus, donc c'est quand même 21 jours où on est contaminant.
C'est ça.
C'est ce truc qui est un petit peu embêtant, mais d'un autre côté, c'est pas une maladie qui va occasionner des séquelles ou des choses comme ça. Et pour lesquels, quand même, on a deux armes. On a des médicaments, alors ça qu'on réserve aux formes graves ou aux formes chez les immunodéprimés. Et puis, il y a un traitement, un vaccin qu'on peut faire immédiatement après un contact avec quelqu'un. Et ce vaccin va permettre d'éviter de faire une forme prolongée ou grave de la maladie. Donc, on peut vacciner en post-exposition immédiate, jusqu'à 5 à 10 jours après l'exposition, on peut vacciner les gens et ça leur est, avec le vaccin de la variole, qui est un vaccin qui n'est pas le même vaccin que la variole d'il y a 50 ans, il y a 40 ans.
Puisqu'on ne vaccine c'est plus aujourd'hui pour la variole, on est d'accord, c'est arrêté.
On a arrêté depuis 77.
D'accord.
Mais tous ceux qui sont de plus vieux, qui sont nés avant 77 ou 76, ont été vaccinés, donc ils sont a priori protégés.
Je confirme.
Donc, ceux qui sont nés après, donc, peuvent très bien bénéficier d'une vaccination en post-exposition s'ils pensent que c'est nécessaire. Alors, HAS a statué là-dessus.
Oui, une question quand même néanmoins pour qu'on comprenne bien. 21 jours, c'est le nombre de jours d'exposition de risque de contamination. Est-ce qu'il y a après un contact, est-ce que c'est une contamination immédiate ou il y a un temps d'incubation d'où l'histoire de ces 5 à 10 jours de post-vaccination possible ?
Alors, il y a une incubation de 5 à 10 jours.
D'accord.
Donc, pendant cette période-là, si on vaccine, on permet d'avoir des anticorps plus tôt. Et quand je dis 21 jours, c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, tant qu'il y a des croûtes sur la peau et qu'elles ne sont pas tombées, il y a un risque d'infection.
D'accord.
En fait, c'est la fin des... L'autre chose, c'est que c'est quand même un virus qui persiste dans l'environnement et sur les vêtements, par exemple. Les vêtements, le linge, la literie, tout ça.
Malgré les lavages ou sans lavage ?
Alors, sans lavage.
D'accord.
Mais il faut laver à une température, alors d'après le CDC, c'est 60 ou 70 degrés, mmh. Mais la plupart de nos vêtements vont mourir à
oui.
60 degrés.
C'est ce que j'allais dire.
Donc, d'autres pensent que avec un 50 degrés ou un 40 degrés et du détergent, c'est suffisant pour se débarrasser de ce virus comme celui de la variole. Bon, je pense qu'il faut pas non plus psychoter.
C'est ça.
Mais c'est vrai que les vêtements, s'ils ont été en contact avec des lésions, sont susceptibles de porter le virus et de transmettre.
Alors, nous sommes sur Radio G avec Eric Billot, le président du Corévi. Nous parlons de la variole du singe. On retient, un, qu'à ce stade des constats, il y a des foyers dans plusieurs pays européens. 71, disais-tu, cas pour la France à compter de ce jour. Qu'on retiendra qu'à ce stade, ce n'est pas ce qu'on pourrait considérer comme une maladie sexuellement transmissible, en tout cas à ce stade, donc. Mais que ce n'est pas non plus un constat qui est réservé uniquement pour les HSA, c'est-à-dire la population gay, dans sa globalité. Mais néanmoins, la surveillance continue, je suppose, on est bien d'accord.
Alors, il y a effectivement, c'est une maladie à déclaration obligatoire, mmh. Donc il y a toujours une surveillance, Santé publique France souhaite surveiller ça. Alors, la question, c'est pourquoi surveiller ? Est-ce que, si c'est une maladie bénigne, est-ce que finalement, on ne peut pas la laisser vivre comme les autres maladies bénignes auxquelles on est exposé ? Et en fait, l'idée, c'est de se dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que le virus mute à force de se répliquer et qu'il devienne finalement un virus plus humain que rongeur ?
C'est ça.
Donc, est-ce que c'est bon de laisser circuler ce virus ? C'est la première question, et pour l'instant, moi, je n'ai pas la réponse.
D'accord.
Et la deuxième question, c'est est-ce que en laissant circuler ce virus, on ne risque pas de lui permettre de trouver un réservoir rongeur autochtone ? Et qui ferait que finalement, il serait plus cantonné aux pays d'Afrique, mais il se baladerait chez les rongeurs européens.
Il aurait une forme d'installation dans nos pays à nous, voilà.
Voilà. Alors, j'ai pas la réponse à ça, mais c'est vrai qu'on est en train de se poser la question de savoir s'il faut vraiment tenter de contrôler un maximum cette épidémie pour éviter ces dérives-là. Ou alors peut-être laisser un petit peu filer les choses, je ne sais pas, j'avais pas la réponse, mais je pense qu'on va en discuter demain au Conseil de santé.
D'accord. Bah écoute, grand merci Eric d'avoir fait ce point avec nous, parce qu'effectivement on peut se poser justement toutes les questions possibles et imaginables, et comme à chaque fois, il vaut mieux avoir toutes les réponses, ou au moins celles connues à ce jour. Un grand merci pour ta participation et ta disponibilité dans Quasar en Zière, et très bonne soirée. Au revoir.
À toi aussi, au revoir.
Radio G 101.5 FM.
Radio G, Quasar en Zière. On suit l'actualité. Spécial Dépêche Mode ce soir dans Quasar en Zière. Après le décès d'Andrew Fletcher. Quel plaisir, certes occasion triste, mais de redécouvrir ce titre qu'on avait un tout petit poil oublié, des Depeche Mode avec le Nothing. h 23, vous êtes en direct, Radio G, Quasar on the Air, l'émission du centre lesbien, gay, bi, trans et intersexe, plus d'Angers et du Maine-et-Loire, avec à chaque fois, tous les 15 jours, différents thèmes abordés, là comme à l'instant, l'aspect santé avec la variole du singe, et alors maintenant, un tout autre sujet, mais qui est important pour nous, c'est le temps qui sera proposé par Quasar et le pôle droit des étrangers, c'est pour ça que nous accueillons Bernard Moreau qui est au téléphone avec nous. Bonjour Bernard.
Bonsoir.
Alors Bernard, on t'a invité dans l'émission avec plaisir parce que on va programmer le mardi 7 prochain au 400 coups en partenariat un film qui a pour titre Un visa pour la liberté, Mister Gay Syria. Alors je vais en faire le pitch très rapidement et expliquer de quoi il s'agit, puis on va en discuter et puis on va étendre notre propos à l'actualité du pôle droit des étrangers de Quasar en expliquant ou en réexpliquant ce que Quasar fait exactement pour les demandeurs et demandeuses d'asile. Donc, le film, lui, est un documentaire d'1h28, presque 1h30. Il est de Azé Toprak. Et l'histoire, c'est un Syrien réfugié et qui est homosexuel, qui se prénomme Hussein, qui a 24 ans, qui vit exilé en Turquie, en ayant dû laisser sa fille derrière lui, afin d'échapper à une mort certaine, parce qu'homosexuel, justement. Et entre survie et peur, eh bien, il y a une opportunité qui s'offre à lui, c'est de participer au concours de Monsieur Gay World en Europe afin de sensibiliser le monde à la situation des personnes LGBT en Syrie. Mais pour aspirer à la liberté, il lui faudra d'abord découvrir une chose, c'est obtenir un visa, et c'est toute l'histoire du film. Et c'est là effectivement que la fin n'est pas très positive. Alors, pour dire les choses, Bernard, on ne va pas mentir, nous l'avons vu en projection privée à Quasar. Toi, tu en penses quoi de ce film en tant que documentaire ?
Bien, il est intéressant parce que ça permet de toucher du doigt la réalité des demandeurs d'asile LGBT, c'est-à-dire à la fois la difficulté de vivre. Alors là, ils sont réfugiés en Turquie, mais on va aussi voir dans les films qu'en Turquie, tout n'est pas toujours très facile pour les personnes LGBT. On voit là des personnes LGBT qui, malgré tout, malgré les difficultés, leurs difficultés s'organisent. Il y a des moments qui sont même plutôt assez drôles, hein, dans ce reportage. Et donc, ça permet effectivement de voir un peu tout l'ensemble de cette réalité des personnes LGBT. D'ailleurs, il y a une des personnes dans le reportage qui est LGBT, mais qui par ailleurs est mariée et a une petite fille. Hein. Et on a à Quasar un certain nombre de personnes LGBT, réfugiées, qui dans une autre vie, dans leur pays d'origine, ont été mariées, le plus souvent de force, et ont eu des enfants.
Ou du moins, si ce n'est pas de force, ils se sont mariés naturellement pour ne pas éveiller les soupçons les concernant.
Oui, voilà.
C'est
oui.
Ça. Hein. Oui. Et pour être vraiment insoupçonnable, avoir des enfants avec leur femme. D'ailleurs, on voit la femme d'un des personnages dans le film. Et d'ailleurs, c'est très exact ce que tu dis sur la Turquie, parce qu'on voit des images de Pride qui sont matées très violemment par les forces de l'ordre. Et c'est pas de la reconstitution, hein, c'est vraiment du direct. Hein. Il y a pas de doute là-dessus. Hein. Ça, c'est pas possible d'être de là. Alors, on voit le parcours. Enfin, c'est très touchant hein, de voir ce concours Mister Gay qui va être élu pour aller représenter les Syriens en exil. C'est dingue quoi, de se dire qu'il y a juste là 20-30 personnes qui vont élire un candidat qui va essayer d'obtenir un visa et qui va essayer de les représenter pour dire quelque chose et puis finalement voilà, ça ne sera pas possible parce qu'il n'y aura pas de visa au bout, et c'est la grande grande déception, mais qui rappelle la réalité aussi de l'accueil des Syriens. Alors, question basique, est-ce que nous, à Quasar, nous avons accueilli par exemple des demandeurs et demandeuses d'asile syriens ou syriennes ?
Syriens, non. Non, on n'en a pas accueilli. On a accueilli des demandeuses et demandeurs d'asile d'autres pays assez proches, l'Arménie notamment, à une certaine époque. Aujourd'hui, les demandeurs d'asile, les demandeuses d'asile qu'on accueille sont quasiment à 100% africains.
D'accord.
Mais ceci étant dit, dans le film, alors il y a bien entendu des différences. D'abord, chaque demandeuse ou demandeur d'asile est unique, de toute façon, déjà. Hein. Ensuite, il y a évidemment des réalités qui peuvent être différentes selon les pays. Ceci étant dit, on retrouve dans le film un certain nombre de points qui sont semblables à ce qu'ont vécu ou à ce que vivent les personnes qu'on accompagne à Quasar.
D'accord. Tu rappelles la différence avec actuellement les personnes que la France abrite qui concernent les personnes ukrainiennes. Le statut n'est pas du tout le même.
Non, c'est-à-dire que les personnes qui viennent d'Ukraine obtiennent automatiquement un permis provisoire européen de 3 ou 6 mois, je ne sais plus.
Hein,
donc, ils n'ont pas besoin au départ de faire une demande. Ensuite, ceux qui, malgré tout, veulent rester plus longtemps en France, font une demande qui est donc extrêmement simplifiée par rapport à la demande d'asile. Mais les Ukrainiens, sauf cas exceptionnel, ne pourront sans doute pas obtenir le statut de réfugié, mais plutôt la protection subsidiaire, qui est une protection réelle, mais limitée dans le temps, et qui dépend après de la situation en Ukraine à l'avenir.
Voilà, qui pourrait présager un retour au pays quand, heureusement, on l'espère, la guerre aura cessé.
Je pense d'ailleurs que la très grande majorité des Ukrainiens ont le projet de retourner dans leur pays dès que possible.
D'accord. Alors, la situation actuellement dans le pôle droit des étrangers, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On pourrait dire que on constate dans ce presque fin premier semestre 2022 des grandes tendances à l'amélioration, à la détérioration de l'obtention des statuts, des traitements. Qu'est-ce qu'on peut dire approximativement?
Alors moi je ne peux me baser que sur ce que l'on vit quotidiennement à Quasar avec les demandeurs d'asile. J'ai pas de statistiques générales actuellement concernant les demandeurs d'asile et demandeuses qu'on accompagne. Il y a une détérioration, c'est-à-dire il y a moins d'accords de statut que l'année dernière, par exemple. Ça devient de plus en plus difficile, et ce qui est assez nouveau, c'est que si au niveau de l'OFPRA, ça fait depuis longtemps que la situation est difficile pour les demandeurs d'asile, peu d'accords. Ce qui est nouveau, c'est qu'au niveau de la CNDA, aujourd'hui, c'est-à-dire la Cour nationale du droit d'asile, c'est de plus en plus difficile également. On a beaucoup de rejets à la Cour nationale du droit d'asile. Et ça, c'est assez nouveau et c'est très inquiétant parce que la CNDA repêchait un nombre important de demandeurs d'asile. Aujourd'hui, ça semble être plus difficile. Ce qu'on constate aussi, c'est tout de même un certain nombre de difficultés dans la vie quotidienne, c'est-à-dire les conditions matérielles d'accueil sont, à mon avis, moins bonnes qu'auparavant. L'administration fait tout ce qu'elle peut pour diminuer au maximum les allocations versées aux demandeurs d'asile, pour les placer à droite à gauche dans des endroits où ils ne pourront pas être valablement suivis au niveau des questions LGBT, par exemple. Bon, tout ça, c'est assez inquiétant quand même.
Là, on parle de ce fameux plan vulnérable où on nous a annoncé 200 places prévues en France auprès d'associations, et on s'aperçoit que d'ailleurs on a des exemples, au moins deux très récents, où des personnes LGBT que nous suivons, que vous les membres du PDE suivent, sont délocalisées du jour au lendemain et très rapidement dans des villes où même s'il y a des associations LGBT, elles ne les suivent pas comme nous les suivons, par exemple, et ça pose un vrai problème.
Voilà. Voilà, ça pose un très gros problème et ces personnes, ces demandeuses et demandeurs d'asile tissent des liens sociaux ici, dans la ville, tissent des liens sociaux au sein de l'association et du jour au lendemain, on les arrache à ce milieu où ils sont de plus en plus à l'aise. Ça n'est pas humain. Enfin, pour moi, tout de même, là, il y a quelque chose, il y a un gros problème.
Il n'y a pas que pour toi. On est bien d'accord que là, c'est vraiment un questionnement et une inquiétude très forte, d'autant que ça interroge sur les pratiques là d'un autre organisme qui s'appelle l'OFI et qui lui est chargé de placer les personnes et de comment est-ce que cet office est au courant de la vulnérabilité des personnes LGBT entre autres, mais pas que. Dans les tendances aussi, on voit que l'administration est en train d'informatiser, d'automatiser beaucoup de procédures et que, par exemple, avec la poste, bah, ça coince, quoi, par exemple.
Voilà, tout à fait. C'est d'autant plus étonnant que une décision du Conseil d'État, il y a, je sais plus, un an ou deux, disait que les préfectures devaient garder la possibilité pour les personnes qui le demandaient de rendez-vous au guichet pour régler toutes ces affaires. Donc là, on voit que les préfectures ne respectent pas une décision du Conseil d'État. À la préfecture d'Angers, ça pose de gros problèmes. Des personnes qui obtiennent leur statut et qui n'arrivent pas à avoir leur carte de réfugié parce que ils ne rentrent pas dans les cases qui sont prévues dans le logiciel qui a été mis en place pour obtenir via Internet la fameuse carte. Voilà quoi.
Pour résumer ça, si je le dis avec d'autres mots et en croyant l'avoir bien compris, c'est que comme la procédure est informatisée, les personnes doivent aller sur le net pour faire leur dossier, mais ils s'aperçoivent qu'en fonction de leur situation, il y a un certain nombre de cas qui n'ont pas été prévus, et comme ces cas ne sont pas prévus, leur demande ne peut pas aboutir et ils se retrouvent toujours sans papier et sans carte.
Voilà, par exemple, quelqu'un qui avait une carte étudiant et qui a demandé l'asile et qui obtient le statut de réfugié, ça n'est pas prévu dans le logiciel. Voilà.
Et comme ce n'est pas prévu, ça ne peut pas aboutir.
Eh ben oui, voilà. Et donc, la préfecture dit « Ah, mais il faut s'adresser au ministère ». Le ministère dit « Ah, mais il faut s'adresser à la préfecture ». Et il est impossible d'obtenir un rendez-vous pour être présent devant une personne dans un guichet de la préfecture pour pouvoir en parler et résoudre le problème. Auparavant, il n'y avait pas tous ces problèmes, voilà. Mais simplement, aujourd'hui, la préfecture fait peser, notamment sur les bénévoles des associations, tout ce travail procédure pour obtenir la carte. C'est du temps en moins à payer par l'administration et c'est du temps en plus pour des bénévoles qui, eux, ne sont pas payés.
On est bien d'accord. Peut-être un autre point sensible remarqué ces derniers temps dans l'évolution des choses, en négatif, en positif, avant de nous séparer.
Eh bien, moi, ce que je voulais. Alors, j'ai envie quand même de finir sur du positif. On a vécu tout récemment à Quasar des événements importants, y compris pour les demandeuses et demandeurs d'asile qu'on accompagne. Ça a été la Pride du 14 mai à Angers qui a été une très grande réussite. Et là, j'ai revu depuis, moi, des demandeuses et demandeurs d'asile qui n'en sont pas encore revenus. Ils ont encore des étoiles dans les yeux parce que, pour eux, c'était extraordinaire. Et puis, encore plus récemment, Quasar avait organisé une sortie dans un très beau château grâce à Sylvia qui fait partie du pôle droit des étrangers. Et j'ai revu depuis plusieurs demandeurs d'asile qui ont participé à cette sortie. Et là aussi, ils sont vraiment très, 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 très heureux.
Alors, on parle du château de Roiron. C'était samedi dernier. On est parti en minibus. On était 21, très exactement, avec les personnes qui jouaient les chauffeurs ou encadrantes et qui faisaient visiter. Et c'était à Roiron, dans la Vienne, donc à 70 km à peu près d'Angers. Et ce qui était intéressant, c'est que c'est un château qui ne paye pas de mine, mais en fait, c'est un château qui démarre en construction à la Renaissance. Et puis, plus proche de nous, avec l'histoire de Madame de Montespan, qui l'a possédé et pour le conserver, il a été restauré et il y a beaucoup d'œuvres contemporaines dedans. Toutes ne sont pas excellentes et réussies, mais il y a beaucoup de points très intéressants et très troublants à visiter. Et en tout cas, on avait bien senti que ça leur avait plu. Et puis bon, on reparlera des projets qui les concernent et qui concernent aussi les adhérents. Un grand merci Bernard de nous avoir accompagnés ce soir, d'avoir fait le point. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous mardi prochain à partir de 20h pour la projection du film donc Un visa pour la liberté, Mister Gessiria. On te retrouvera pour animer la soirée et répondre à la foule en délire dans le cinéma. Voilà, bonne soirée, merci, ciao, soirée, bye.
Radio G 101.5 FM.
Au hasard en hier, incontournable. Strange Love, Dépêche Mode. Belle soirée, restez avec nous.
Strange love, strange eyes and strange love. Strange love, that's how my love goes. Strange love, will you give it to me?
Strange love, that's how my love goes. Strange love, will you give it to me?
Les camarades de Dépêche Mode, Martin Gore et Dave Graham, Anne qui sont tristes de la disparition de Andrew Fletcher récemment. Donc, c'était une façon de penser et de lui rendre hommage avec ces deux titres de Dépêche Mode. Ce Quasar en hier sur Radio G101.5, l'émission de Quasar, le centre LGBTI+ d'Angers du Maine-et-Loire. Nous continuons notre découverte des temps, des différents temps, et nous accueillons Nathan avec nous au téléphone. Bonsoir Nathan.
Bonsoir.
Alors Nathan, tu fais partie donc de la team trans de Quasar, et on t'a invité parce qu'il y aura la semaine prochaine un temps un peu spécial, l'entre-deux, le bar LGBT d'Angers, rue Lyonnaise, le 90 exactement. C'est un temps de découverte du vocabulaire et de la réalité de ce que vivent les personnes trans. Donc on s'est dit, bah, finalement on va bien pouvoir en parler un peu quelques minutes en direct sur Radio G dans Quasar en d'hier. C'est l'endroit vraiment idéal. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut s'arrêter sur des éléments de vocabulaire et d'expliquer, selon ton approche, l'approche de Quasar et de la team trans, comment est-ce qu'on définit une personne transgenre en réalité ?
Oui, tout à fait. Bah alors, finalement, c'est pas vraiment quelque chose de compliqué, c'est même assez simple. Une personne transgenre, c'est tout simplement une personne qui, au fur et à mesure de sa vie, va prendre conscience, va se rendre compte qu'elle ne se sent pas, on parle vraiment d'un ressenti profond, qu'elle ne se sent pas en adéquation avec le sexe qui lui a été assigné à la naissance. Et dans ce cas, on parle d'identité de genre plus que de notion de sexe, puisque la notion de sexe et de partie génitale n'entre absolument pas dans le sujet. C'est vraiment une question de ressenti personnel.
Donc ça, c'est pour la question transgenre. Alors pourquoi est-ce qu'on dit transgenre, et disons-le une bonne fois pour toutes, pourquoi est-ce qu'on n'utilise plus, pourquoi est-ce que les personnes de la génération d'aujourd'hui n'utilisent plus le terme transsexuel que d'autres générations peut-être poursuivent à utiliser, et en tout cas utilisaient avant?
Bien, tout simplement parce que c'est une connotation, enfin ce terme-là a une connotation extrêmement péjorative, d'une part à entendre, notamment pour les personnes concernées, puisque dans le passé, au sein de notre histoire mondiale, c'était un terme qui était utilisé par les psychiatres pour, entre guillemets, diagnostiquer ces personnes qu'ils considéraient comme déviantes, donc des personnes transgenres qui se sentaient tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas en adéquation avec le sexe qui leur avait été assigné à la naissance. Et les psychiatres se sont sentis investis de cette mission de diagnostiquer, de poser un mot sur ces déviances. Hein, c'était vraiment un terme qui était utilisé à l'époque pour catégoriser et mettre dans des cases les personnes transgenres. Et du coup, c'était vraiment un terme très péjoratif, très négatif et très psychiatrisant, violent même, puisque c'était des personnes à l'époque qui recevaient des violences médicales très, très très violentes. Et c'est vraiment quelque chose dont on essaye de se détacher, parce que ça a une image très péjorative, très négative, alors qu'on parle juste de vivre sa vie, finalement, de vivre comme on se sent. Et c'est un terme qu'on n'aime plus du tout entendre, quoi. On n'est pas sur de la psychiatrisation ici. On n'est pas ni malade ni atteint de quelconque pathologie. On souhaite juste vivre sa vie comme on l'entend, et puis être bien dans son corps, dans sa peau, dans son quotidien, et avancer.
Et comme on l'a vu à la projection aux 400 coups le 17 mai dernier du film Nos corps sont vos champs de bataille, par contre, dans d'autres pays, le terme transsexuel continue à être utilisé, notamment dans des pays comme l'Argentine, non pas sur cette différence-là et pour passer outre ce que tu viens de dire, mais parce que ce sont des pays qui ont des habitudes de lutte et de combat politique plus ancrées que les nôtres, et que le terme leur est extrêmement profitable et bénéfique. Donc on voit que d'un continent à l'autre, les réalités peuvent être différentes, mais l'idée, c'est bien de faire progresser les droits et les possibilités pour les personnes. Donc on a parlé de transgenre, de trans, donc de transsexuel, donc que chez nous, on nomme transsexuel. Et les personnes non-binaires, alors là, ça interroge toujours. Là, aujourd'hui, nous étions en intervention au milieu scolaire à Cholet. Et quand on parle de non-binarité, alors là, on voit les yeux qui roulent, les fronts qui plissent. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut ne pas être ni homme ni femme? Et comment est-ce qu'en termes de genre, tout cela est explicable, la non-binarité?
Ben, finalement, un peu comme tu disais, Stéphane, généralement, quand on parle de non-binarité, on perd beaucoup de monde. Tout simplement parce que c'est un terme qu'on comprend pas trop, on visualise pas trop, et c'est justement par le fait de ne pas se sentir concerné qu'on a du mal à visualiser comment c'est possible, tout simplement. Alors qu'en réalité, il s'agit juste d'un spectre. C'est un petit peu comme pour ce qui est de la lumière, on parle de spectre colorimétrique, on se parle de spectre pour tout un tas de choses. Et tout simplement, l'identité de genre, elle peut pas être littéralement binaire, tout l'un, tout l'autre. C'est pas si facile, entre guillemets, ou si simpliste. La non-binarité, c'est finalement ne pas se retrouver dans des cases qui sont préfaites, ne pas se sentir concerné par des codes ou des des codes ou des j'en perds mon latin.
Bah finalement des situations d'ordre administrative et social.
Oui, c'est ça, des formes de préjugés un petit peu, mm-hmm. Si on peut dire ça comme ça, on s'y retrouve pas, et du coup on peut se sentir absolument pas en accord avec ce qui peut être proposé par la société, et se construire un petit peu cette identité où on va construire notre identité de par d'un style vestimentaire, peut-être du maquillage ou pas du tout, ou peut-être surfer avec différents codes et se retrouver peut-être dans plein de codes ou peut-être pas du tout. Et cette identité, finalement, elle n'est pas verbalisable sous forme de cases, comme la société française notamment aime bien le faire. C'est tout simplement de dire bon, bah, voilà, on me propose tout un tas de choses, de termes, et moi je m'y retrouve pas, alors je me considère tout simplement comme non-binaire parce que mon ressenti ne correspond pas à ce que la société a décidé de proposer. Voilà, on est sur de la non-binarité un petit peu comme en comparaison en termes d'informatique, quand on parle de chiffres binaires, c'est du codage en 0 et en 1, donc là on a ici deux propositions, un peu comme dans la société, notre société française voire européenne qui est très binaire, homme-femme, on a deux propositions là, et la non-binarité c'est ne pas se retrouver dans ces codes-là ou même des codes transgenres, voilà, ce genre de choses, et on va se situer soit un peu entre les deux, soit complètement en dehors de ces propositions-là.
Alors, il nous reste deux minutes. Comment reconnaît-on, dans la façon de parler, dans les termes qu'elle utilise, une personne non-binaire ?
Alors, ça peut être de différentes manières. Parfois, on peut retrouver de l'écriture inclusive qu'on peut entendre à l'oral ou bien lire à l'écrit, avec des pronoms comme Yel, ce fameux Yel qui a bien sûr fait scandale au sein de l'éducation nationale, ou des termes comme Aël ou Eal. Voilà, ça va être la personne qui va l'utiliser ou peut-être ne pas l'utiliser. Et si elle n'utilise pas ce genre de termes, peut-être qu'elle va utiliser des termes épicènes, donc ce sont des mots un peu universels qui ne sont pas genrés, comme lorsqu'on dit le public, on aurait pu dire les spectateurs ou les spectatrices, et ben en disant le public, finalement on englobe tout le monde, puisque c'est un mot qui ne se genre que d'une façon.
Exact.
ou utiliser une façon de parler avec des constructions de phrases où on ne retrouvera pas des mots genrés.
En tout cas, c'est un vaste sujet. Alors, on se donne rendez-vous sans faute dans une semaine, très exactement, jeudi en 8. Nous serons le 9 juin. C'est à 19h30. Alors, c'est ouvert, on est bien d'accord, aux personnes transgenres, agenres, non-binaires, mais aussi et surtout aux personnes cisgenres, qui ne sont donc pas concernées par ces questions habituellement, qui peuvent être hétérosexuelles, qui ont envie de découvrir des termes, des personnes, des vécus et tout un pan de vécu administratif et de prise de tête, comme un certain nombre de personnes actuellement avec l'état civil, le changement de prénom, l'obtention par la CPM d'une carte vitale du premier coup avec le bon prénom lorsqu'on a changé de prénom à l'état civil, enfin plein de situations de cet ordre-là. Un grand merci Nathan d'avoir été avec nous ce soir sur Radio G. On te souhaite avec plein de bonnes choses et à très très vite au sein de Quasar. Ça marche ?
Merci beaucoup.
On fait ça.
Très bonne soirée.
Radio G. 101.5 FM.
Allez, on ne les quitte pas. En tout cas, pas tout de suite. Troisième extrait de leur multiple discographie, les Depeche Mode. Check the Disease. Belle soirée sur Radio G. Quasar on the Air. We'll be right back. démodable Depeche Mode avec ce troisième et dernier extrait de leur discographie Check the Disease pour une émission en hommage à Andrew Fletcher. Avant de refermer la page de ce quasar en d'hier, c'est traditionnel, c'est l'agenda. Alors cette fois-ci, ce que je vous propose, on va le reprendre à rebours, ça va nous changer et puis ça va nous permettre véritablement de bien entendre tout ce que nous vous proposons. Alors notez, le vendredi 17 juin, c'est le retour des conviviales à quasar. Covid derrière nous, tout du moins, bon, on sait ce qu'il en est, mais on reprend les conviviales, c'est-à-dire qu'on se retrouve le troisième vendredi de chaque mois dans les locaux de Quasar, 15 rue de Jérusalem à Angers, et on apporte de quoi partager et manger avec, boire un coup, avec plein de personnes dans différentes activités de Quasar, demandeurs d'asile, adhérents, personnes transgenres, gays, lesbiennes, tout cela mélangé avec une bonne entente et une bonne soirée. Jeudi 16 juin prochain, nous nous retrouverons pour un nouveau numéro de Quasar en d'hier, ici même sur Radio G, 20h-21h. Le lundi 13 juin à 19h, c'est une réunion très spéciale, inter-associative, de tous les partenaires de la Pride 2022. On fera le bilan, le point de vue de chacun, de chacune, de comment ça s'est passé. Bon, autant vous dire qu'il est extrêmement positif cette année. En tout cas, les associations concernées, elles, ont bien été prévenues. Le samedi 11 juin, alors, il y a plusieurs activités au sein même des locaux de Quasar. Il y aura deux formations proposées par la protection civile, la formation des gestes qui sauvent, et ce seront deux formations proposées aux demandeurs et demandeuses d'asile qui auront ainsi un diplôme et qui auront suivi une formation de 2 heures. Et en plus, les gestes qui sauvent pour la vie, ça peut effectivement donner beaucoup de valeur aux pratiques des uns et des unes. Vendredi 10 juin à 19h30, ce sera une autre réunion Pride, bilan mais interne, avec une soirée remerciement, buffet pour les bénévoles de la Pride 2022 qui se sont décarcassés. Le jeudi 9 juin, plusieurs activités, d'abord des interventions en milieu scolaire en journée du côté de Beaupro, et puis à 17h, il y a un pique-nique spécial de la Team Trans du côté du Héron Carré, et à 19h30, le fameux temps à l'entre-deux, découverte des transidentités. Enfin, mardi 7 juin, on l'a évoqué 400 coups, la projection du film Un visa pour la liberté, Mr. Gessiria, et puis les permanences, les 4, 11, 18 et 25 juin, c'est à Quasar, et c'est de 17h à 19h. Que le temps passe vite, il file vite en bonne compagnie, c'est vrai, nous avons été en compagnie d'Éric Billot qui nous a parlé de la variole du singe, un point santé, puis de Bernard Moreau du pôle droit des étrangers, et puis qui nous parlait donc du film, et puis de Nathan qui nous parlait de la terminologie de tout ce qui concerne les personnes trans et à genre et non binaire. On vous souhaite une très 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 belle soirée, on espère vous retrouver en super forme dans les différents temps que nous organisons, et à très bientôt, belle soirée, bonne journée à vous, à venir.
Radio G 101.5 FM.